fue el Equipelamundo.
Bonsoir. Des policiers et leurs familles habitant les bâtiments de l'ex-institut médical en face du camp Kokolo à Kinshasa, évacués ce matin par des militaires de la 7e brigade intégrée des FRDC, les infortunés ne savent où aller. Une cinquantaine de rescapés de l'accident survenu jeudi sur le lac Kivu ont regagné Bukavu ce samedi matin. L'autorité provinciale s'attelle à les retourner dans leur milieu d'origine. Renforcer les systèmes de santé en RDC en y apportant un appui financier conséquent et impact durable, c'est la principale recommandation du 4e congrès international de pathologies infectieuses et parasitaires qui s'est clôturé ce samedi à Kinshasa. À Kinshasa, évacuation ce matin des habitants du bâtiment de l'ex-institut médical IM en face du camp Kokolo. Après la destruction du camp Tembe-Natembe, c'est cet institut médical qui est la cible. Des militaires de la 7e brigade intégrée des FRDC ont investi depuis 4 heures du matin ces bâtiments connus sous le nom de camp Koït. Ils y ont délogé des policiers et leurs dépendants qui occupaient ces lieux depuis plus de 5 ans. René Capita, vous avez vécu l'événement.
On se croirait dans un site de déplacés de guerre si l'on a emprunté cet avant-midi les tronçons qui relient les avenues de la Victoire et 24 novembre à côté de la cathédrale protestante. Des centaines de femmes et enfants des policiers qui viennent d'être délogés sont tassés le long de la clôture de la cathédrale à côté de leurs meubles, valises et ustensiles de cuisine. D'autres étaient en train d'évacuer leurs biens qui par véhicule militaire, qui par pousse-pousse ou encore sur la tête. Du côté des bâtiments de l'IM, on pouvait apercevoir des montagnes, des tôles et des chevrons que les éléments de la 7e brigade jetée dehors. Selon des témoignages recueillis, les autorités militaires ont promis à ces familles de policiers une indemnisation pouvant leur permettre de payer le loyer ailleurs. Seuls quelques-uns auraient reçu déjà la somme de $150 pour cette fin. Outre l'évacuation des immeubles, les kiosques et les conteneurs qui servaient des boutiques et des restaurants de fortune sont également démolis. La plupart des policiers ont déclaré qu'ils ne savent pas où aller car un site d'hébergement n'a pas été aménagé pour les accueillir.
Tirés de leur sommeil par les éléments de la 7e brigade intégrée des FRDC, les occupants des sites IM racontent comment ils ont été chassés sans être avertis au préalable.
Ils nous ont dit qu'avant de partir d'ici, ils vont nous donner un peu d'argent pouvant nous permettre d'aller nous installer ailleurs. Mais curieusement aujourd'hui, on ne nous a même pas informés. Nous étions surpris vers 3 heures du matin, les éléments de la brigade intégrée et les policiers nous ont encerclés. Ils nous ont accordé une heure pour déguerpir. Nous avons d'abord cru qu'il s'agissait d'un bouclage de routine. Mais voilà qu'ils nous chassent pour de vrai et nous ne savons pas où aller. Ils ont donné de l'argent à ceux du camp Lufungula. Pour nous, ils disent qu'il n'y a pas d'argent. Ils nous ont demandé d'attendre que le gouverneur vienne pour négocier avec nous. Mais le gouverneur nous a dit qu'il n'a pas d'argent. Il reviendra le jour où il aura l'argent. Mais curieusement, vers 5 heures du matin, ils sont venus nous chasser des maisons. Nous n'avons pas où aller. Nous n'avons pas volé, nous n'avons rien fait. Parmi nous, il y a des veuves et des orphelins. Nous ne savons pas où partir.
Des propos recueillis par René Capita Pelozo à Chikapa au Kasaï occidental, ce sont plutôt les cabines publiques et marchés situés autour de la piste de l'aéroport national de Chikapa qui ont été détruites. Cela fait 3 jours que l'opération a commencé. Elle est exécutée par les services de la mairie dans le cadre de l'opération Chikapa Ville Propre. Les pourtours de la piste de l'aéroport de Chikapa ressemblaient depuis des mois à un véritable marché. On pouvait même voir des animaux divaguer sur la piste au moment de l'atterrissage des avions. Les propriétaires de ces cabines ne contestent pas la mesure de la mairie. Certains vont même jusqu'à affirmer qu'elle arrive au bon moment. Reportage Marie-Chantal Lumba.
Ces cabines publiques étaient érigées sur le terrain non loin de la piste d'atterrissage. Malgré que leur porte d'entrée donnait sur la route principale, leur construction s'étendait sur la zone interdite de l'aéroport. La décision du maire de la ville de faire disparaître ces cabines fait suite au risque qu'encourt un attroupement des personnes à ces endroits en cas d'un mauvais atterrissage ou décollage d'un avion, mais aussi que ces endroits attirent les vendeurs à la sauvette. Maintes fois à l'aéroport de Chikapa, il faut d'abord faire la chasse aux bêtes avant tout atterrissage. Contactés, les responsables de ces cabines reconnaissent le risque qu'ils encouraient en construisant autour de la piste, mais ils déclarent avoir fait des bonnes affaires à cet endroit aéroportuaire qui a une forte fréquentation. Pour le maire de la ville, l'opération Ville Propre qui se poursuit ne se caractérise pas seulement dans la lutte contre l'insalubrité, mais aussi prévenir les catastrophes. De Kalanga, Marie-Chantal Lumba, Radio Kapi.
Au Katanga, pendant ces temps, les terrains de la prison de haute sécurité de Buluo, à une centaine de kilomètres de Lubumbashi, est envahi par des civils. Ses occupants disent posséder des documents en bonne et due forme leur délivrés par les services du cadastre. Pour sa part, les directeurs de la prison dénoncent ces lotissements. Les directeurs des provinces déclarent aussi illégale l'occupation de ces terrains qui appartient au domaine pénitentiaire. Mais les services du cadastre Likasi estiment que ces personnes occupent ces terrains légalement. Et récit des faits avec vous, Paulin Munanga.
La concession qui est lotie se trouve juste devant la prison de Buluo de l'autre côté de la route Likasi. Selon le directeur de la prison de Buluo, son institution est préoccupée par cette situation. Floribert Kasongo Kabulo parle d'un problème délicat. Pour lui, il est inadmissible que des gens se permettent de construire à cet endroit. Il n'y a qu'un seul coupable, le service de cadastre Likasi, affirme-t-il.
N'étant pas du service cadastral, cette question est à poser à ce service qui est compétent pour la distribution.
C'est un problème délicat. Vous voyez, le statut de la prison de Buluo, c'est une prison à haute sécurité. Nous pouvons voir avec preuve que la concession a des bornes, même les parcelles distribuées. Ce que je dis, déjà devant la prison, c'est déjà loti.
Monsieur Mutomb Irung, ancien chef de division de cadastre Likasi a géré ces dossiers. Selon lui, la décision de vendre des concessions au niveau de Buluo ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1988 qu'un projet avait été conçu dans ce sens. Et en 2003, précise-t-il, le gouverneur du Katanga de l'époque avait signé un arrêté autorisant la vente de cette concession. Le directeur des provinces, Evrar Kibawa Mwilambwe, a adressé dernièrement une correspondance à Madame le maire de Likasi. Dans cette correspondance, il demande au maire de Likasi de faire cesser immédiatement tous les travaux de construction. Lubumbashi, Paulin Munanga, à Radio Okapi.
51 rescapés de l'accident survenu jeudi sur le lac Kivu ont regagné Bukavu ce samedi matin. Ces personnes viennent de Goma, où ils avaient été évacués d'urgence après la collision du bateau qui les transportait avec un boat. Pour l'instant, l'autorité provinciale s'attelle à les retourner dans leur milieu d'origine. Le bilan est resté statique, 9 morts et 22 disparus. De Bukavu, une correspondance de Jean Kassami.
C'est aux environs de 10h heure locale que les deux bateaux Karisimbi et MV Chassi ont accosté au Beach Mwanzi. À leur bord, les 51 rescapés. On pouvait encore lire la fatigue et les signes de traumatisme sur leur visage. Une équipe du gouvernement provincial et de l'Assemblée du Sud Kivu était sur les lieux pour les accueillir. Pour le ministre provincial en charge de l'Intérieur, les dispositions pratiques sont déjà mises en place pour rapatrier ces rescapés dans leurs milieux respectifs.
Du côté logistique, nous sommes en train de nous débattre pour que ces gens rentrent d'abord chez eux à la maison et qu'ils fassent les deuils. Ils ne sont pas tous des mêmes endroits. Ils habitent des îlots. Donc il faut louer 3 ou 4 bottes et nous sommes en train de voir qui vont où. Ça doit être absolument aujourd'hui puisque leur prise en charge locale ici sera difficile. Le président de l'Assemblée provinciale a offert un dîner, un petit repas au lieu d'arriver et maintenant ils peuvent parler, on peut échanger. Et on les fait participer aux propositions sur leur retour ou bien sur leur prise en charge.
L'équipe d'enquête dépêchée hier au lieu de la collision par l'autorité du site Kivu n'est pas encore en mesure de donner le nombre exact de personnes qui avaient embarqué à bord du bateau. Les capitaines qui détiendraient les manifestes de mer invisibles. Les bilans provisoires restent les mêmes, 9 morts et 22 disparus. Hier, le commandant de la force navale attribuait cet incident au fait que le bateau n'avait ni feu de position ni un quelconque éclairage. De Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
En province orientale, remise ce samedi par le collectif des femmes d'un cahier des charges de la femme de Kisangani au député provincial. Cette remise est intervenue au terme d'un carnaval motorisé organisé par 3 associations féminines, notamment la coalition Foleko Gender, Femmes chrétiennes catholiques et Kopemeko Gender. Ceci à l'occasion de la clôture de la première phase d'accompagnement du processus démocratique dans le pays. Les députés ont promis de transmettre ce cahier à l'organe provincial délibérant. Un reportage est signé Jacques Léon Mamba.
Plus de 200 femmes ont participé à ce carnaval. Une occasion pour elles d'exiger des autorités le respect de leurs droits. L'éradication de certains mots qui rongent notre société figure également parmi leurs revendications, comme l'explique Charlie Angeli, présidente de la Foleko.
Nous voulons qu'il y ait respect de la représentativité rationnelle des femmes, cela dans l'administration publique, provinciale, locale et autres institutions. Qu'il y ait mise sur pied des mécanismes de promotion du leadership féminin. Ensuite, qu'on puisse lutter contre l'insécurité, les tracasseries policières, administratives, l'impunité et la corruption. Nous voulons qu'il y ait suppression des taxes illégales.
Les députés provinciales témoins de l'événement ont promis de transmettre ce cahier de charges acquis de droit, c'est-à-dire à l'Assemblée provinciale. Toutefois, elles ont promis d'en faire le suivi, comme l'explique l'honorable Imbereng Ozana.
Nous allons voir comment l'exécutif va agir. Si l'exécutif n'agit pas, nous avons le droit d'interpeller l'exécutif pour lui poser la question pourquoi il n'a pas répondu au cahier de charges de femmes.
Notez que cette manifestation s'est clôturée par un culte économique à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Léon-Jacques Mwamba, Radio Kapi, Kisangani.
Province du Maniema, des comités locaux de paix chargés de réconcilier les populations de Kindu seront mis en place très prochainement. Le projet a été lancé hier vendredi à Kindu par le gouverneur de province. Ces comités devront sensibiliser les communautés à la cohabitation pacifique, selon les responsables de l'UPK, l'Union Paysanne, pour le progrès de Pangui, Kailo, Kabambare et Kasongo. Ces projets ciblent dans un premier temps les habitants de Kindu et Kailo. Monsieur Haruna Amorani, le président de l'ONG, donne la cartographie des conflits dans la province. Il est au micro de Mami Alili Chibango.
Dans le territoire de Kailo, il y a plein de conflits, de pouvoir coutumier, de conflits fonciers, de conflits dits à la guerre. Autant de conflits, la cartographie nous l'avons. Pour nous, c'est pas seulement le territoire de Punia, de Lubutu, de Kabambare, de Kailo aussi. Nous avons dit, nous sommes une structure de développement communautaire, de développement durable. Rien ne peut se faire si les communautés ne sont pas ensemble. Nous avons déjà pris des contacts avec les sensibilisateurs déjà formés par la CONADER, par Novibe et Oxfam. Ces animateurs vont suivre les briefings qui va durer 3-4 jours pour que nous ayons la même méthode, les mêmes approches, les mêmes messages et la même façon de travailler sur le terrain. Donc il y aura des séances et nous allons mettre à contribution les notables pour les cérémonies de réconciliation, les officiants traditionnels, et nous organiserons des cérémonies traditionnelles de pardon, de réconciliation.
Notons que ce projet est financé par les PNUD dans le cadre du programme COMREC qui s'occupe de la reconstruction communautaire, de la réintégration des ex-combattants et de la réduction des armes légères. L'argent versé dans les programmes verticaux doit aussi appuyer les secteurs de la santé si l'on voudrait avoir des actions durables et préserver les vies humaines. C'est l'une des recommandations prises lors du 4e Congrès international des pathologies infectieuses et parasitaires, tenu du 4 au 7 juillet dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères et coopération régionale à Kinshasa. Plus de 400 participants venus de l'Amérique, de l'Europe, de l'Afrique ainsi que de la RD Congo ont pris part à ce forum organisé par l'Institut national biomédical INERBE en collaboration avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, IMTE. Le rapporteur général de ce forum, le professeur Pascal Lutumba, revient ici sur la principale recommandation. Il est au micro de Blaise Shindani Kambala.
Il faut absolument renforcer le système de santé qui est au fait la fondation, le soubassement qui, sans ce système, on ne saura pas faire grand chose. Pour le moment, ce qu'on constate dans le secteur de santé, c'est qu'il y a beaucoup d'appui pour les programmes verticaux. C'est en millions de dollars et qu'il y a très peu d'appui pour le système de santé. Il faudrait faire en sorte que ces appuis pour des programmes verticaux renforcent quand même le système de santé de manière à ce qu'on ait des actions durables et que si cela ne se fait pas, ce qui arrive, c'est que dès que le programme s'arrête, il n'y a pas de suivi et la maladie va reprendre et de nouveau on va refinancer. Donc on tombe souvent dans un cercle vicieux qui est assez dangereux, ça nous fait perdre du temps, ça fait perdre surtout des vies humaines, surtout dans les milieux assez reculés, on perd énormément de vies humaines à cause de ça.
Au Kasai-Oriental, le nouveau commandant de la 5e région militaire a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie de prise d'armes. C'est samedi à Mbujimayi, au camp Nsele. Le général Baoumou Folo a appelé les troupes à la discipline. Julien Nyamoni était présent.
C'est une cérémonie haute en couleur qui marque l'entrée en fonction du nouveau commandant de la 5e région militaire, le général Baoumou Abamba Folo. Au cours de la cérémonie de prise d'armes, le général Baoumou a lancé un appel aux hommes des troupes pour observer la discipline. Il a appelé à la collaboration entre les différents corps en charge de la sécurité des biens et des personnes, à savoir les unités de la police nationale. Autant il a rappelé aux officiers des FRDC le respect strict du règlement militaire, mais aussi la loyauté. Auparavant, le général Obed Rui Bassira, commandant sortant, a recommandé à tous les hommes des troupes de maintenir la discipline. Il a souhaité de poursuivre la collaboration avec la population pour assurer davantage la sécurité sur toute l'étendue de la province du Kasaï oriental. La cérémonie s'est clôturée par la signature des documents de la remise et reprise par les deux généraux. Julien Niamouani, Mbujimaï, Radio Okapi.
Il est très exactement 19h15 à Mbujimaï et 18h15 à Kinshasa. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Okay.